cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 4 février 1993.
Continuons à réfléchir sur ce premier degré de notre vie au plan philosophique. Comprendre ce qu'est l'assimilation vitale. Le vivant est celui qui assimile. Assimile une réalité extérieure à lui qu'on appelle l'aliment et qui devient son être. Après toute une série d'actions et de réactions, il y a la respiration et le point de vue de se nourrir, c'est toujours l'assimilation vitale. C'est que c'est le vivant qui, en vertu de ce qu'est sa puissance vitale, d'assimiler. Et il assimile en fonction de ce qu'il est. Il ramène tout à lui. C'est le propre de l'assimilation, du reste. On verra toute la différence avec l'assimilation dans la connaissance. Mais dans la nutrition, on est en présence de la première opération vitale. Tout se ramène au vivant. Et on assimile pour le vivant. Et on rejette ce qui n'est pas assimilable et qui risquerait toujours de l'empoisonner. C'est important de voir que tout de suite, et ce passage se fait grâce à la dynamis, à la puissance vitale de celui qui digère, puissance nutritive. Et au dire d'Avicenne, pas d'Aristote ni de Thomas d'Aquin, on est en présence de la première abstraction. C'est intéressant à noter. Je ne crois pas qu'on doit le répéter, mais c'est intéressant de voir que pour Avicenne, il y a le passage du physique au vital qui implique une abstraction, puisqu'il y a une séparation de ce qui est assimilable et de ce qui n'est pas assimilable. Autrement dit, avec la vie, on est devant un phénomène nouveau. et ceci grâce à l'immanence du vivant. Et grâce à l'immanence du vivant, on peut parler alors d'une intentionnalité vitale. Le vivant a ceci de tout à fait particulier, de qualitatif, qui peut dépasser le domaine d'extériorité quantitative et arriver à l'immanence vitale qui est qualitative. Alors la distance qui existe entre l'intentionnalité, entre cette espèce, ce mode vital et le monde physique, on dira intentionnalité. Donc on met ce mot, on a inventé ce mot. Au point de vue philosophique, il ne faut pas oublier que le père d'Aristote était médecin et que toute la philosophie de la vie a été très dépendante de tout le domaine médical, de l'art médical et de la science médicale, mais surtout de l'art médical. Au temps d'Aristote, c'est l'art médical. Aujourd'hui, il y a la science biologique, l'aspect science qui se développe, mais en vue d'eux. C'est ça qui est intéressant, du reste, parce que c'est intéressant de voir comment on peut regarder le vivant de diverses façons. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intentionnalité ? Est-ce qu'on le retrouve à tous les niveaux de la vie ? Et on le retrouve au premier niveau de la vie végétative. Pour expliquer l'intentionnel, pour expliquer l'assimilation vitale. Alors, il ne faut pas uniquement qu'il y ait le mot. C'est trop facile. Il faut comprendre que derrière ce mot, on veut exprimer quelque chose qu'on expérimente. Du dimension de la vie. Le savant peut regarder les conditions de la vie. Pour que la vie apparaisse, il faut telle condition. Mais le savant ne sait pas, et le philosophe non plus, ce qu'est la vie. Il le constate et il pose un principe radical de vie pour l'homme, l'âme. Mais l'âme échappe complètement à la science biologique. Et c'est en ce sens-là que le biologiste peut saisir le chiffre vital d'un vivant. Mais ce n'est pas par ce chiffre vital qu'il atteint l'âme. Autrement, la philosophie, la science biologique obligerait le savant de poser l'âme. Les lois biologiques se réalisent à un niveau descriptif où l'on essaie de comprendre les relations qui existent entre antécédents et conséquents. Et ces relations montrent les conditions nécessaires pour que la vie apparaisse. L'ADN, pour que la vie apparaisse. Mais ça ne dit pas les principes propres de la vie. Alors je peux établir des lois, mais pas plus. Ces lois permettent de pouvoir agir sur le vivant, pouvoir l'aider, le soutenir, ou le mettre dans des états de déviation à sa vie propre. Mais ne permettent pas de comprendre. Bien, l'assimilation reste un fait que je constate, que j'expérimente, mais je ne sais pas ce que c'est. Le vivant assimile. Mais venir dire, c'est comme l'être. Oui, un peu. L'être, mais l'être a ceci de particulier, c'est que l'être est toujours quelque chose qui transcende ma connaissance et ma vie. Tandis que la vie se saisit de l'intérieur et d'une manière immanente. Et parce que ça se saisit d'une façon immanente, j'ai toujours l'impression que je saisis tout. Et je montre l'abîme qui existe entre le monde physique et le monde vital en montrant l'intentionnalité vitale qui est quelque chose de particulier qui est le monde de la vie qui n'est plus le monde physique. On verra ça parce que ça s'accompagne à toutes les opérations vitales. Dans toutes les opérations vitales, je parle d'intentionnalité. Et l'intentionnalité, c'est de montrer que la vie n'est pas première. Voilà ce que le philosophe peut constater. La vie n'est pas première, elle présuppose toujours un monde physique. Alors, est-ce que ce monde physique détermine le monde de la vie? Ou est-ce que le monde physique ne fait que disposer? Au plan philosophique, c'est net. Le monde physique ne peut que disposer et ne détermine pas. Il y a donc quelque chose d'unique au vivant qui ne s'explique pas par le monde physique. Il y a un passage d'un degré de vie matériel. Il y a un passage d'un degré d'être matériel à un degré d'être vital. Et le degré d'être vital, présupposant le degré d'être physique, a quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau s'explique en premier lieu par l'assimilation intentionnelle, par l'immanence. Et cette immanence se donne à nous en premier lieu par la respiration et la nutrition. Le vivant se meut. Et se meut dans un organisme de plus en plus complexe. Et c'est pour ça que Teilhard donne comme principe de la vie la complexité. Vous voyez, ce n'est pas un principe philosophique. C'est un principe scientifique, si j'ose dire. C'est plutôt un axiome. Plus le vivant est vivant, plus il est complexe. La complexité. Aristote parlait de la perfection qui ne peut s'atteindre que dans la complexité. Au niveau scientifique, je peux parler uniquement de complexité. Et c'est vrai, ça, c'est un fait que plus je suis en face d'un vivant parfait, il est complexe. Et donc, il n'atteint sa perfection et sa finalité que dans la complexité. Il ne peut pas l'atteindre autrement. Et le monde physique est relativement simple comparativement au monde vital de la vie. La nutrition s'achève dans ce que représente la croissance. Végétative implique une croissance. Du premier instant, la semence et la croissance, la nutrition et la croissance. La croissance, c'est une nutrition qui permet aux vivants d'atteindre la taille normale de son espèce, de sa nature propre. Chaque vivant assimile à travers la quantité. Et comme c'est à travers la quantité et d'une manière organique, on peut comprendre comment l'assimilation vitale peut impliquer une croissance. On peut mesurer. La croissance est quantitative alors que l'assimilation est qualitative. Et les deux montrent le dépassement à l'égard du monde physique, qualitatif et quantitatif. Vous voyez comme c'est curieux de retrouver dans le monde de la vie ce qui est dans le monde physique, qualité, quantité. Et c'est dans ce sens-là que la vie est comme, j'allais dire, est comme enfouie dans le monde physique. Ça, dans une vision de sagesse, ça pose tous les problèmes. Comment le Créateur qui a communiqué la vie a-t-il voulu que la vie soit tellement enfouie dans le monde physique. Le monde physique est pour la vie. Philosophiquement, je dois le dire. C'est sûr que le monde physique n'a pas de finalité par lui-même. Il est toujours mu. N'a pas de repos. C'est la fameuse question du lieu. Au niveau physique. Est-ce que le lieu pour le monde physique est-il une transposition du monde vital dans le monde physique? Est-ce que le monde physique a vraiment un lieu? Pour Aristote, c'est les éléments qu'il montre. C'est le feu et la terre. ce niveau-là qu'on doit le comprendre. Mais c'est très délicat de montrer que dans le monde physique, il y a un lieu. C'est dans la mesure où les éléments demeurent dans la complexité. Alors le feu va toujours vers le haut et la terre vers le bas. Et ça ne dit pas grand-chose. Et c'est la seule chose qu'on peut dire. Et la vie dépasse ces deux extrêmes. Le vivant de vie végétative assimile dans son immanence et progresse dans son immanence. Et un troisième moment, c'est la procréation. Et le troisième moment de la procréation montre comment le vivant peut être source d'un autre vivant. Et ceci est inscrit au niveau de la vie végétative, à tel point qu'on peut dire que ce qui donne un sens à la vie végétative, c'est la procréation, c'est la génération. Pour l'homme, procréation, et pour les animaux, et ceux de vie purement végétative, le point de vue de la génération. C'est la génération qui finalise toute la vie végétative. Pourquoi ? Parce que par la génération, la nature de telle espèce demeure au-delà de la corruptibilité. Il y a donc, par le vivant, quelque chose d'éternel dans le monde des vivants, dans le monde physique, je veux dire. Par la vie, il y a quelque chose d'éternel dans le monde physique. C'est le fait que le vivant engendre un vivant. Et grâce à la génération, il échappe à la corruptibilité, où il dépasse la corruptibilité et continue de vivre et d'être dans tous ceux qui ont la même nature que lui. Là encore, on voit comment la vie à quelque chose d'irréductible au monde physique. Et je crois qu'il y a trois irréductibilités sur lesquelles ça vaudrait la peine de regarder avec beaucoup d'attention ces trois irréductibilités. L'irréductibilité de la génération, on échappe au temps. L'irréductibilité de la croissance, on échappe à l'extériorité. L'irréductibilité à l'assimilation, on entre dans un domaine qui est propre au vivant. Donc on entre dans un domaine d'assimilation intentionnelle. Ce domaine de l'intentionnalité prend toute sa force quand je regarde la génération. Parce que je vois comment une graine, une semence, contient virtuellement toute la croissance du vivant. Et ceci au-delà de l'extériorité quantitative. L'extériorité quantitative fait qu'il y a une juxtaposition. Tandis qu'au contraire, grâce à l'immanence du vivant, il peut y avoir il a son chiffre biologique, se développe de telle façon. Et aucun vivant ne se développe de la même façon. Il a son rythme propre de vie. Et en raison de ce rythme propre de vie, on voit bien qu'il y a une autonomie nouvelle pour le vivant. Pour le vivant de vie végétative. Alors, la question qui se pose au plan philosophique, cette autonomie du vivant de vie végétative est-elle suffisamment nette pour réclamer de chaque vivant de vie végétative un principe d'être, donc une substance? Vous voyez bien la question, hein? C'est là où il faut la poser. Chaque vivant de vie végétative a son autonomie. Un arbre a son autonomie. La semence de n'importe quel arbre, cette semence donne au développement de cet être de vie végétative son rythme propre, son assimilation propre et sa procréation propre ou sa génération propre. Les trois opérations sont extrêmement liées, puisque toutes les trois dépendent de l'aliment. Toutes les trois sont en dépendance de l'aliment, mais ont une intentionnalité et une immanence toujours plus forte. La vie nutritive d'assimilation demeure en dépendance du milieu dans lequel elle va se développer. Puisque le vivant qui se nourrit dépend directement du milieu et ne peut pas s'évader de ce milieu. Quant à la croissance, c'est bien la même nutrition, mais cette même nutrition a un effet immanent, nouveau. Le vivant grandit. Et ce n'est pas l'aliment directement qui le fait grandir, indirectement. Vous n'allez pas manger des choux-fleurs pour grandir. On va vous vendre une nourriture spéciale pour grandir. Je sais très bien qu'aujourd'hui, on peut artificiellement arrêter une croissance qui, on ne sait pas à quel moment elle s'arrêterait. C'est vrai, quand un être humain commence à mesurer 2,5 m, 2,10 m, on s'inquiète. On s'inquiète. Quand ça va s'arrêter? Parce qu'il n'y a plus. On est hors série. C'est très gênant. Et c'est vrai que c'est très gênant. Souvent, c'est un peu maladif. Alors, on traite les gens actuellement pour qu'il y ait un arrêt. Mais voyez, comme c'est grave, on intervient dans la croissance. Ou quelqu'un qui ne grandit pas du tout, petit pygmée. Le pygmée, c'est sa race, c'est sa nature, c'est normal. Mais quand quelqu'un qui n'est pas pygmée ne grandit pas plus, c'est ennuyeux. Il y a un arrêt dans la croissance, vous voyez. La croissance représentant une victoire du vivant sur la quantité. Tandis que la nutrition, une victoire du vivant sur la qualité. déclaration, une victoire du vivant sur la corruptibilité de la nature. Donc la vie a quelque chose de victorieux dans le monde par rapport au monde physique. Le vivant est un victorieux, comme vivant. C'est pour ça qu'il est joyeux. Le vivant comme tel est joyeux, grâce à sa victoire, inconsciente. Hein. Quand vous avez grandi, vous étiez complètement inconscient d'être victorieux sur la quantité. Mais c'est ce qui exprimait votre espérance, votre « quand je serai grand ». Mais quand ça grandit trop, inquiétude. C'est très très curieux tout ça. Mais tout ça, au point de vue scientifique aujourd'hui, au point de vue biologique, on connaît beaucoup mieux tous les éléments qui permettent la croissance, qui permettent l'arrêt de la croissance et tout ça. Mais on ne sait pas plus qu'Aristote sur la nutrition, la croissance et la génération au plan philosophique. La science étudie d'une façon étonnante et admirable ce que représentent les éléments qui permettent la nutrition, la croissance, la procréation. On étudie ça de très près et c'est toujours du côté de la quantité et du côté de la matière, puisque c'est le mesurable. Et on divise pour aller plus loin dans l'analyse. Diviser, c'est l'analyse. Mais qu'est-ce que c'est que le vivant? De vie végétative, il faut se poser la question. C'est ce degré fondamental de la vie que je constate en moi. Si l'homme est bien la synthèse des degrés de vie, je vois comment ma vie végétative à la fois me met dans une dépendance complète à l'égard du monde physique. Je suis radicalement dépendant du monde physique. Du monde physique, attention, du monde physique habitable grâce à l'atmosphère. Parce que je ne suis pas radicalement dépendant de la Lune. Il n'y a pas d'atmosphère. Un lieu sans atmosphère. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vie. Je suis radicalement dépendant du soleil. L'homme engendre l'homme avec le soleil. Et on peut dire aussi avec la lune. Ça dépend qui, tu vois. Mais je suis dépendant de tout ce monde physique. Mais cette dépendance est toujours de l'ordre de la disposition. C'est pour ça que je ne peux pas me servir du monde physique pour pouvoir dire cet individu est né à tel moment... Nécessairement, sa vie va se développer comme ça. Ça, on ne peut pas. On peut seulement dire, étant donné que vous êtes né à telle époque, sous tel soleil, à telle heure, vous êtes plus sensible à tel élément. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible, mais pas plus. Puisque là, l'homme domine l'univers. Et donc, dans le développement de chacun d'entre nous, il y a notre liberté. Et notre liberté agit sur notre développement. Nous avons été plus ou moins paresseux. On a fait plus ou moins de gymnastique. Donc, alors, on a développé plus ou moins son thorax. C'est sûr ça, c'est évident. On a étudié plus ou moins le point de vue intellectuel, la ville et la campagne. qu'il y aura de nouveau par rapport à l'homme. Il y a toujours un X inconnu. Alors c'est pour ça que certains aiment mieux faire les essais sur les hommes. On n'a pas le droit. Je n'ai pas le droit de considérer un homme, même s'il est réduit, comme on dit aujourd'hui, à une vie végétative, purement végétative. J'aime mieux dire ça que ce qu'on dit autre part. On dit un légume, vous comprenez pas. Ça reste un légume humain. Donc c'est pas un légume. Dites qu'il n'y a plus que la vie végétative qui semble vivre. Où il y aura toujours la vie animale du toucher. Parce que quand il n'y a plus de toucher, il n'y a plus de vie. Ça, on va voir ça avec la vie animale. Mais notre vie végétative, c'est quelque chose d'abstrait. Il y a une abstraction terrible que je fais quand je parle de ma vie végétative. Parce que ma vie végétative est un degré de vie d'un tout. Ma vie végétative, c'est le sous-sol. Alors, vous voyez tout ce qu'on met dans le sous-sol, toutes les réserves. La chaufferie. La vie végétative, c'est le mot sous-sol. Dès que le rez-de-chaussée, c'est ma vie sensible. C'est l'accueil. Ma vie végétative ne me rend pas du tout accueillant. Oh là là. On le dit du reste. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Hein, voyez l'accueil. Ma vie végétative est une vie farouche. L'égocentrisme. Le vivant, parce qu'il assimile à cette puissance extraordinaire de tout ramener à lui. Et ceci, c'est son fondement. Ça, c'est mon pain. On n'aime pas de voir que l'autre va venir vous prendre ça quand vous l'avez pris. C'est une indélicatesse forcenée. Et à ce moment-là, vous êtes capable de réagir comme un vivant de vie végétative. Et vous savez, entre la vie végétative, les êtres luttent. L'espace vital, c'est la lutte la plus farouche. Alors, comprenons qu'au niveau de la vie végétative, la procréation, je vous l'ai dit tout à l'heure, est un sommet. Le vivant de vie végétative est ordonné à la procréation, à la génération. Le vivant de vie végétative, en moi, ma vie végétative est ordonnée à la procréation. Et cet ordre est un ordre naturel. Il faut bien le saisir, ça. C'est très très important. Même si je peux la dépasser grâce à mon esprit, je ne peux pas supprimer le déterminisme de la vie végétative. La vie végétative est plus déterminée que ma vie sensible et que ma vie spirituelle. Il y a des impératifs de vie végétative qui sont très forts vis-à-vis du sommeil, vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de la boisson. Des impératifs très très forts sur lesquels vous n'avez pas de pouvoir. Et ceci enracine la vie végétative dans la vie physique. C'est très intéressant de comprendre la politique de la vie végétative. Je me souviens d'une conférence que j'avais écoutée comme ça. C'était palpitant. C'était d'un biologiste, un savant biologiste, qui montrait la politique de la vie végétative. Je vais vous les garder, sa conférence, pour lire ça aux noviciats, aux novices. Très intéressant. Enfin, comment, parce que enfin, ça reste. Hein. on la surveille de près et qu'on essaie de la dépasser, il y a les sevrages. Et les sevrages, au niveau de la vie végétative, sont farouches. Le sevrage, c'est le passage d'un milieu à un autre milieu. Vous passez du milieu du monde au milieu noviciat. Vous passez du milieu maternel à la naissance. Vous passez de l'alimentation maternelle à l'alimentation de tous, sevrage. Ça joue un rôle très important. Le dépassement qui peut se faire. Ce qui montre le côté impératif de la vie végétative. Je crois qu'il faut le comprendre, ça. On est une usine très complexe, très très complexe, avec des éléments extrêmement importants. Et on doit aimer son corps. On doit l'aimer. Ça nous est donné, c'est notre avoir. Et on doit voir toute la complexité de cette vie végétative. Et on ne peut pas le brutaliser inutilement. On doit l'assumer. C'est très différent. C'est-à-dire qu'on doit coordonner, coopérer avec ces lois impératives de la vie végétative pour aller plus loin.